Gloire à Dieu. Nous allons lire dans le livre de Juges, Juges 6, 11 à 16. Juges 6, 11 à 16. Juges 6, 11 à 16. Il est écrit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit: « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Voilà, nous sommes dans le contexte suivant. Le peuple d'Israël est dominé par les Madianites qui les ont chassés de leur territoire et qui pillent leurs récoltes. Donc ils étaient comme des esclaves en fuite. Et c'est dans ce contexte que un ange apparaît à Gédéon et lui dit: tu es un vaillant héros. Gédéon dit: mais je suis un vaillant héros, moi. Mais regarde la situation de mon peuple. Si j'étais un vaillant héros, nous ne serions pas dans ce contexte d'esclavage, de souffrance, de guerre interminable. Et il dit: mais pourtant, lorsque nous entendons parler nos parents, nos ancêtres, ils disent que autrefois, tu as fait des exploits avec eux. Mais pourquoi pas avec nous? C'est ça notre thème aujourd'hui. Pourquoi pas moi? Voilà. Pourquoi pas moi? Ce que nous lisons, est-ce que ça ne concerne que les autres? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? C'est ce que nous voulons dire à Dieu aujourd'hui. Pourquoi pas moi? Mais il faut le dire parce que Dieu ne va forcer personne. Et donc Dieu a appelé Gédéon vaillant héros, mais il n'a pas forcé à dire: eh bien, je vais le vivre. C'est Gédéon qui a choisi. Il a dit: mais oui, mais comment se fait-il que, d'accord, tu m'appelles vaillant héros, mais à quoi ça sert si nous souffrons autant, si nous sommes dans une telle galère, alors que tu as fait des exploits avec d'autres, mais pourquoi pas avec moi? Et Dieu lui dit: mais justement, c'est toi que dont je veux me servir pour libérer les enfants d'Israël. Mais comment? Il dit: mais juste, je serai avec toi. Je serai avec toi et ça se fera. Pourquoi pas moi? Parce qu'on se dit: mais peut-être ce n'est pas moi parce que je ne sais pas parler. Peut-être ce n'est pas moi parce que je me mets souvent en colère. Peut-être ce n'est pas moi parce que je n'aime pas Dieu autant Dieu qu'un tel. Dieu te dit: mais non. Je ne fais pas les choses par rapport à ce que quelqu'un est d'extraordinaire et de fort. Je fais les choses en fonction de ce que mon fils a fait à la croix. Quand Jésus a crié « Tout est accompli », il n'a pas attendu que toi tu sois parfait pour qu'il crie à la croix « Tout est accompli ». Il était sûr de lui que son œuvre suffisait. Tout ce qu'il nous demande, c'est de choisir. Pourquoi que tu dises « Mais pourquoi pas moi ?» Pourquoi seulement les autres et pourquoi pas moi? C'est ce que Gédéon a fait comme choix. Il a challengé Dieu, il a défié Dieu. Il a dit, mais oui, mais tu as fait avec les autres. Pourquoi tu ne ferais pas avec nous? Et ça, c'est une position personnelle, c'est un choix personnel. Pourquoi pas toi? Pourquoi un tel doit être sauvé et pas toi? Et Satan te dit, mais puisque toi tu es trop mauvais, mais Dieu te dit, mais ce n'est pas à cause du cœur de l'autre que je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé parce qu'il a revendiqué l'œuvre de Jésus accomplie pour lui à la croix. C'est comme ça que je sauve tout le monde. Ce n'est pas parce que certains sont bons et d'autres sont mauvais. Non. Dans Luc 19, 10, Jésus dit, je suis venu chercher, et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et dans un autre passage, il dit, le médecin vient pour les malades, il ne vient pas pour les bons. Mais toi, tu restes non sauvé, tu restes païen, tu restes non baptisé, ben, parce que tu estimes que ce n'est pas encore le moment. Mais ça sera quand le moment? Pourquoi pas toi? Pourquoi les autres se sont fait baptiser et pourquoi pas toi? Donc à un moment donné, il faut dire, mais pourquoi pas moi? Pourquoi seulement les autres? Il faut faire un choix. Mais pourquoi les autres sont consacrés et pourquoi pas moi? Mais Dieu n'attend que ça, que tu lui dises, mais pourquoi pas moi? Il te dira, mais c'est possible. Mais avec ma puissance à moi, il faut juste que tu crois en moi. Il faut juste que tu choisisses. Notre part, c'est de choisir et d'avoir foi. Mais celui qui fait, c'est Dieu. Bien-aimé, regarde bien les gens que toi tu envies. Quand tu auscultes bien leur vie, tu te rends compte que eux aussi se plaignent. S'ils se plaignent, ça veut dire que ce que tu envies chez eux n'est pas satisfaisant. De sorte que le seul qui peut satisfaire, le seul qui est complet, c'est Dieu lui-même. Et Dieu n'a pas dit à Gédéon, je te donnerai ceci, cela. Il a dit, je serai avec toi. C'est ça qui compte, ce n'est pas ce que Dieu te donne, parce que Dieu, vous allez voir, Dieu a donné à certains la force, à d'autres l'intelligence, à d'autres encore l'argent, à d'autres encore une grande famille, ainsi de suite. Mais allez vivre aux côtés de ces personnes, vous allez voir qu'eux, ils se plaignent. Il leur manque toujours quelque chose, et quand est-ce qu'ils ne se plaignent pas? Ils ne se plaignent pas quand ils sont en bonne communion avec Dieu. C'est le seul moment où personne ne se plaint. Quand la relation avec Dieu est bonne et que ça coule, c'est le seul moment où l'humain ne se plaint pas. Alors pourquoi envier l'être humain parce qu'il a fait des miracles? Nous avons vu des gens comme A.A. Allen aux États-Unis. Il a fait des miracles extraordinaires, mais il a fini alcoolique. Il a fini alcoolique. Ça veut dire que les miracles ne l'ont pas sauvé. Les miracles n'ont pas été la solution. Je peux vous dire qu'il a fait des miracles extraordinaires. Ce n'est pas du faux. Il a fait vraiment des miracles, mais c'est Dieu seul qui comble. Ce ne sont pas les miracles. Puisqu'il a fini alcoolique, s'il a fini alcoolique, c'est qu'il lui manquait quelque chose. Et ce qui lui manquait, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut combler cela. On a vu des prédicateurs qui ont critiqué le système de prospérité. Il ne faut pas suivre l'argent, ainsi de suite. Mais ils ont fini dans ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils étaient dans la vérité, ils semblaient être forts, mais ils ont cru en leur force plutôt qu'en la force de Dieu. Donc, et Dieu leur a manqué un jour. Ils sont tombés dans le même piège qu'ils dénonçaient autrefois. Donc, c'est pour dire que celui qui rend complet, celui qui donne la perfection, celui qui donne la vraie satisfaction, c'est Dieu lui-même. Alors Dieu dit à Gédéon, ben, je serai avec toi. C'est de moi dont tu as besoin. Ce n'est pas de ressembler à Moïse, de ressembler à je ne sais qui. C'est de moi dont tu as besoin. C'est vrai que j'ai fait avec les autres. Mais les autres ne deviennent pas Dieu pour autant. C'est moi seul qui peux régler les choses. Parce qu'on se dit, mais l'autre, il a fait comment? Ah ben, il a jeûné 40 jours, je vais jeûner 40 jours. Nous, on a fait toutes ces choses-là dans la région parisienne. Nous avons fait toutes sortes de tentatives d'attirer Dieu par la force. On a, les églises de Paris ont invité les Argentins qui avaient le succès à ce moment-là, les Anacondia, et qu'on sort, ils les ont invités en disant qu'après le passage des Argentins qui avaient des églises de 100 000 personnes là-bas en Argentine, ben, il va y avoir le réveil en France. Il n'y a pas eu le réveil en France après leur passage. Ce ne sont pas ces personnes que Dieu a utilisées qui deviennent Dieu. C'est Dieu seul qui reste Dieu. Et donc, quand toi, tu regardes à l'autre, tu te dis, ben, pourquoi pas moi? Mais Dieu te répond, ben, moi, je suis là pour t'accompagner, pour vivre même mieux que ce que tu vois chez les autres. Mais c'est un choix à faire, à dire à Dieu, pourquoi pas moi? Nous commençons par le salut dans Luc 23, 39, 43. Pourquoi pas toi? Pourquoi toi tu ne serais pas sauvé? Pourquoi toi tu dois vivre l'enfer, le feu éternel? Pourquoi veux-tu vivre ça alors que d'autres se laissent sauver? Luc 23, 39 à 43. Il est écrit ceci. L'un des malfaiteurs, hein, Jésus est à la croix avec deux malfaiteurs à gauche et à droite, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Il y a deux malfaiteurs à gauche et à droite de Jésus. Il y a un qui injurie Jésus, qui critique, qui trouve toutes sortes de mensonges à dire contre Jésus. Mais le deuxième lui dit, « Mais ce monsieur, nous n'avons entendu rien de mal venant de lui. Pourquoi tu le critiques? Pourquoi tu l'injuries ?» Nous, nous avons vraiment mérité notre position ici à la croix. Mais ce monsieur n'a rien fait de mal. Et quand il avoue ainsi ses péchés, quand ce deuxième brigand reconnaît ses torts, il a une révélation. La révélation de ce qu'est Jésus réellement. Et c'est à partir de cette révélation, il dit, mais pourquoi pas moi? Parce que quand il a la révélation qu'il est le sauveur, il se dit, mais pourquoi ne me sauverait-il pas moi? Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Tu es entouré des gens qui ont été sauvés par Jésus et des gens qui n'aiment pas Jésus, des philosophes, des jeunes de ton âge qui préfèrent la musique du monde, qui préfèrent les boîtes de nuit, qui préfèrent la mode, qui préfère TikTok, tu es entouré de tout ça. Alors, qu'est-ce que tu choisis? De te laisser influencer par ceux qui critiquent les enfants de Dieu, par ceux qui critiquent les gens qui vont à l'église. Oui, il y a beaucoup de mauvaises églises, nous reconnaissons ça. Oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu à double vie, nous reconnaissons ça. Mais ça ne change pas l'amour de Dieu. Ça ne change pas Dieu. N'y a-t-il pas beaucoup de faux médecins? N'y a-t-il pas beaucoup d'erreurs médicales? Mais pourtant, quand nous sommes malades, nous allons quand même à l'hôpital. Qui est celui qui a décidé, en fonction des infos qui sont passées à la télé sur un mauvais médecin, qui a décidé de ne plus aller voir les médecins? Personne. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais chrétiens, ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais pasteurs que Dieu lui a changé. Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais médecins que l'hôpital a changé. L'hôpital a pour objectif de te soigner. Tu y vas quand même. Tu continues à y aller. Et il y a des gens même dans l'église, ils disent, comment dire, je ne viens plus parce qu'il y a un tel qui est de mauvaise compagnie. Mais on n'a jamais entendu quelqu'un dire, je démissionne parce que j'ai un collègue qui est de mauvaise compagnie. De se dire, mais je vais perdre mes sous. Mais quand c'est l'église, c'est trop facile. Je ne viens plus parce qu'il y a un tel. Mais quand c'est le boulot, on continue quand même à y aller en espérant que l'autre soit chassé du travail. Voilà. Donc pourquoi, quand c'est Dieu, ça devient compliqué? On suit les mauvais conseils du diable. C'est ce que le premier brigand exprimer les mauvais conseils du diable. Mais s'il est Dieu, s'il est fils de Dieu, il n'a qu'à se sauver lui-même. Alors, tu écoutes les conseils du diable qui te dit, mais notre cousin là, il se dit chrétien, mais ce jour-là, quand on nous a servi, il s'est servi le premier. Et il a pris le premier, la plus grosse part. Voilà. Tu écoutes le conseil du diable et tu te laisses non sauver. C'est comme si tu restes avec ta maladie en te disant, mais un médecin m'a déçu un jour, donc je garde ma maladie. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Dis-toi, pourquoi moi je ne serai pas sauvé? Si, donc ce que tu vois comme mauvais au milieu des chrétiens, mais ces gens-là ont été malgré tout sauvés. Dis-toi, mais si ces mauvaises personnes ont été sauvées, pourquoi pas moi? Au lieu de dire, mais comment ils sont mauvais et ils sont sauvés. Dis-toi, mais s'ils sont mauvais et qu'ils ont été sauvés, pourquoi pas toi? Parce qu'au fond de toi, tu fais une comparaison. Mais dans ta comparaison, tu préfères rester mauvais parce que tu estimes que les mauvais qui sont en face ne devraient pas être sauvés. Non, tu dois plutôt profiter de la grâce de Dieu, dire, mais si la grâce de Dieu a touché des mauvais, pourquoi pas moi? C'est ce que Pavel a fait. Pavel, c'était un jeune orphelin qui s'est retrouvé, donc il avait sa sœur et lui qui avait perdu leurs parents. Et ils se sont retrouvés les deux orphelins très loin de chez eux. Et ils ne savaient pas où sa sœur avait été prise. Et lui, il était pris dans un camp. Et finalement, il s'est évadé du camp. Et il est arrivé dans la forêt. Dans une forêt, il a rencontré des bandits. Les bandits l'ont adopté. C'est des gens qui faisaient des pillages dans les villages alentours, sur les passages. Ils détroussaient les voyageurs. Et ils se réfugiaient dans la forêt, là où la police ne pouvait pas les atteindre. Et ils vivaient dans la forêt. Et c'est là que Pavel a atteint l'âge de 16 ans, étant hébergé par ces bandits. Lui-même, il est devenu bandit à l'âge de 16 ans. Et un jour, avec un collègue bandit, ils ont détroussé deux chrétiens et ils les ont tués. Ils ont tué deux chrétiens et dans leur poche, il y avait un Nouveau Testament et d'autres papiers. Mais il n'y avait pas beaucoup d'argent, il y avait vraiment très peu d'argent, mais ils les ont tués quand même. Et ils ont récupéré le Nouveau Testament et d'autres papiers. Pavel rentre à la maison. Il s'est rappelé que sa maman, quand il était tout petit, sa maman lisait ce livre-là. Il dit, mais tiens, ça me rappelle maman. Je vais relire le livre. Et il a commencé à lire le Nouveau Testament. Il a commencé à lire. Les gens ont vu qu'il était devenu différent. Il ne parlait plus trop. Il ne participait plus aux expéditions jusqu'à ce qu'il arrive au chapitre que nous venons de lire. Donc le texte que nous venons de lire ensemble dans Luc 23. Quand il arrive là, il voit un brigand comme lui, à qui Jésus dit ceci, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Il dit, « Ah bon? Un brigand aussi peut être sauvé? Pourquoi pas moi ?» C'est là. Parce que pendant qu'il lisait tout, le début, il restait dans l'idée que c'était un livre pour les bons, c'était un livre pour les sages. Mais quand il arrive à la fin, à Luc 23, il se dit, mais tiens, mais un brigand comme moi reçoit la déclaration qu'il sera au paradis. Alors pourquoi pas moi? C'est ça que tu dois te dire. Tu es esclave de TikTok, esclave des injures, esclave de la légèreté. Au lieu de critiquer certains chrétiens qui peuvent faire encore des erreurs, mais que Dieu pardonne, c'est ça le problème que les gens ignorent. Il se focalise sur les erreurs des autres, mais Dieu pardonne. Et au lieu de te focaliser sur les erreurs des autres, au lieu de penser que c'est toi, parce qu'au fond de toi, la réalité est la suivante, c'est que tu penses que tu es trop mauvais. Alors pour te consoler, tu cherches les failles chez les autres. Mais sache que, étant trop mauvais, Jésus est venu te sauver. N'écoute pas le groupe de ceux qui t'amènent à la perdition. Ils ne t'aideront pas en enfer. L'enfer se vit tout seul. Le jour où tu as le cancer de poumon à cause de la cigarette, les amis ne t'aideront pas. Ce ne sont pas les potes qui t'aideront. Ce sont les mêmes médecins dont tu t'es moqué qui vont t'aider. Ce sont les mêmes amis dont tu t'es moqué parce qu'ils ne fumaient pas eux, ils viendront te visiter, ils t'apporteront la nourriture. Ce ne sont pas les amis de débauche qui viendront. Ils te diront, ils te considéreront hors circuit, tu es fini, ils continuent eux, leur route de débauche. Et ce Pavel lit, il dit, mais moi aussi. C'est là qu'il se convertit, il se dit, mais si Jésus a sauvé ce brigand, il peut me sauver moi. Et c'est ainsi qu'il se l'est sauvé. Et les copains bandits finissent par lui poser la question, mais qu'est-ce qui t'arrive, Pavel? Tu ne parles plus, tu marches le long en large dans le camp. Il dit, c'est le contenu de ce livre qui m'a transformé. Eh bien, les brigands disent, mais chaque soir, autour du feu, il faudra que tu nous lises une partie de ce livre. Eh bien, c'est ainsi que la prédication commence au milieu des brigands. Chaque soir, Pavel lit une partie du Nouveau Testament. Et il arrive encore à ce même chapitre, ce même endroit. Les autres aussi se reconnaissent. Et ce jour-là, d'autres encore sont sauvés. Chaque jour, des gens sont sauvés. Et il est venu un jour où, le jour de la séparation, il y a eu deux camps. Le groupe de sauvés qui a décidé de quitter le camp pour aller se livrer à la police. Voilà. Voyez. Ils se sont embrassés dans les pleurs et sept personnes ont quitté le camp, dont Pavel. C'était des gaillards harnachés avec des armes, toutes sortes de choses compliquées. Ils arrivent au commissariat. Déjà, quand ils arrivent, même les policiers ont peur. Mais c'est quoi, c'est cette personne? C'est qui, c'est cette personne? Ils arrivent, ils disent, nous venons nous livrer. Mais comment vous venez vous livrer? Oui, nous faisons partie des bandits de la forêt et nous venons nous livrer. Alors, le commissaire est dépassé, ça le dépasse. Il se dit, mais d'accord, ils veulent arrêter le banditisme. Pourquoi ils viennent se livrer? Ce n'est pas logique humainement. Qui va refuser la liberté? Il appelle le procureur. Il est dépassé tellement qu'il appelle le procureur. Viens voir, nous avons un cas compliqué ici. Le procureur arrive. Il entend le même discours. Lui aussi, il est dépassé. Il leur pose la question, mais pourquoi vous vous livrez? Vous auriez pu fuir, non? Qu'est-ce que vous faites là? Nous ne pouvons pas fuir puisque nous sommes devenus des chrétiens. Nous devons avouer notre péché. Et tout ce qu'on a fait comme crime, c'est pourquoi nous venons nous livrer, que la justice nous juge. Quoi? Le procureur a dit, ça me dépasse. Enfermez-les un instant, je rentre chez moi. Le procureur rentre chez lui, il est perturbé. Il a dit, mais comment se... Il se dit, mais comment se fait-il que moi je lis le même livre depuis longtemps, je n'ai jamais eu cet effet-là? Pourtant, il dit à sa femme, mais pourtant nous avons ce livre. Mais pourquoi ça, chez nous, ça ne fait pas cet effet? Vous savez pourquoi ça ne fait pas l'effet? Parce que quand tu lis, tu oublies, tu t'oublies toi-même. Tu lis comme un livre d'histoire. Alors que quand nous lisons la Bible, nous devons toujours dire la phrase « Pourquoi pas moi ?» Tu vois un miracle, tu dois te dire « Pourquoi pas moi ?» Tu vois quelqu'un qui est sauvé, tu dois te dire « Pourquoi pas moi ?» Quelqu'un qui est pardonné, pourquoi? Au fait, tant que tu ne fais pas ce travail-là de te mettre dedans, mais ça restera un livre étranger. Tu liras, tu vois Jésus multiplier les pains, tu dis, ça reste pour toi un exploit, comme un but de football, vous savez, qui peut penser qu'il va marquer des buts comme Messi, personne. Donc on regarde seulement, les gens regardent seulement. Mais c'est différent avec la Bible. La Bible, c'est que tu lis, tu peux l'accomplir. C'est ça la différence. C'est vrai que quand on voit les exploits de Usain Bolt, on dit ah, 100 mètres, 9 secondes, 58. Voilà. Ça reste quelque chose que tu contemples. Mais Dieu te dit qu'en ce qui concerne les choses de Dieu, tout le monde peut vivre les exploits que nous lisons. Et donc, du coup, le procureur, toute la nuit, il a lu le Nouveau Testament et l'effet est arrivé. Lui aussi s'est converti. Pourtant, il était officiellement chrétien, mais c'est là qu'il connaît vraiment le Seigneur. Et il partage également avec sa femme. Il dit, moi aussi, je suis devenu comme ces bandits. Le procureur, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. Il n'est plus procureur, il devient avocat. Donc, procureur, c'est celui qui est chargé d'accuser. Hein. les mauvais. Ben, il démissionne de ce poste, il devient avocat pour défendre les sept. Vous voyez, l'histoire est assez longue. Je m'arrête là pour rester dans notre sujet. Pourquoi pas moi? Pavel, il s'est dit, pourquoi pas moi? Alors, pourquoi pas ton salut à toi? Pourquoi tu veux seulement regarder les autres sauvés, les autres se baptiser, les autres aller au ciel, et toi tu restes en enfer? Dans quel but? Pourquoi pas toi? Surtout que le salut est disponible. Ce n'est pas sérieux. Le salut est disponible. Pourquoi pas toi? Nous continuons dans Marc 5. Marc 5, 25 à 35. Marc 5, 25 à 35. Il est écrit ceci, « Et une grande foule le suivait et le pressait. » Une grande foule suivait Jésus et le pressait. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. » Cette femme a vu Jésus passer avec la foule. Elle s'est dit, « Pourquoi pas moi ? J'ai entendu tout ce que ce monsieur a fait à gauche, à droite. Il a même ressuscité de mort. Et pourquoi pas moi ? Je ne sais pas comment l'aborder. Moi, je vais tout faire pour toucher son vêtement. Je ne sais pas quoi faire, mais je vais m'approcher de lui et toucher son vêtement. » Et ce jour-là, elle était guérie. Pourquoi pas toi? Tu ne peux pas lire seulement les histoires de cette femme, du monsieur de la piscine de Bethesda qui était paralysé depuis 38 ans, de Lazare qui était mort, cela faisait 4 jours, et toi tu croupis dans ta maladie. Pourquoi Dieu serait contre toi? Dieu n'est pas contre toi. Pourquoi Dieu choisirait de guérir certains, pas d'autres? C'est faux. Dieu n'a pas d'amis avant de nous sauver. Il n'a pas de conseiller. Dans Romains 11, il dit, il n'a pas de conseiller. Il n'a pas de cousin pour qu'il favorise ses cousins et pas les autres. Nous sommes pareils devant Dieu. Pourquoi Dieu va guérir les uns et pas les autres? Oui, tu me diras, mais oui, mais ça fait longtemps que j'ai demandé. Oui, comme cette femme aussi, ça faisait longtemps. Ça faisait 12 ans. Et il y a une autre, ça faisait 38 ans. Mais chaque jour, tu dois te dire, pourquoi pas moi? Je refuse de lire que les histoires des autres. Je les lis et ça doit me donner l'envie de vivre les choses et non pas une position de lecteur d'aventure de Tintin. Où tu vois Tintin qui a été pris par un aigle. Qui a volé, tu te dis, mais c'est impossible. Oui, mais là, c'est possible. C'est ça la différence. Donc, ça ne doit pas être les aventures de Tintin, la Bible. Ça doit être la révélation de Dieu pour toi. Il te dit, ce que tu lis, c'est pour que ça s'accomplisse chez toi-même. C'est ça l'appel de Dieu. C'est ça le but de la Bible. Le frère Jean dit dans Jean 20, 30 à 31, il dit Jésus a fait des miracles à tel point que si on mettait ça dans les livres, le monde entier n'aurait pas suffisamment de livres. Il dit, mais le peu que vous voyez dans la Bible est présenté afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en lui vous ayez la vie. La vie, ce n'est pas le fait de respirer, sinon, même sans Jésus, les gens respirent aujourd'hui. La vie, c'est la gloire et la présence de Dieu qui apporte la santé, tout le reste. C'est ça la vie. Le but de ce que nous lisons, c'est pour que nous-mêmes nous croyions et que nous recevions la vie du Seigneur, la vie de Dieu qui expulse la mort sous toutes ses formes. Et la maladie, c'est un agent de la mort. Et la vie de Christ est là, la vie en abondance pour expulser tout cela. Cette femme s'est dit, pourquoi pas moi? On a déjà appris qu'il a guéri un sourd-muet. Pourquoi pas moi? Bien-aimé, décide que tu vas embêter le Seigneur jusqu'à ta guérison. N'arrête pas. Pourquoi pas toi? Cette femme n'était pas la cousine du Seigneur, le Seigneur ne la connaissait pas. En fonction de quoi Dieu l'a guérie et pas toi? Il n'y a pas de raison. Pourquoi pas toi? Le voleur à la croix, mais c'était un vrai méchant. Pour être condamné à la croix, il devait faire partie des grands bandits. Mais toi, tu te dis, mais je suis sorcier, c'est trop grave. Mais non, c'est vrai que c'est trop grave. Mais tu peux être sauvé, puisqu'à la croix, Jésus est mort pour tout le monde. Et beaucoup restent dans la sorcellerie parce que le même dans les milieux chrétiens, on a peur d'eux. On les considère comme condamnés à jamais. C'est faux. N'importe qui peut être sauvé. Moi, j'ai écouté des histoires, j'ai lu des histoires, des gens qui étaient dedans, qui ont même tué des parents, mais que Jésus-Christ a sauvés. Ils ont tué des parents dans la sorcellerie, mais Jésus les a sauvés. Parce que Jésus, à la croix, il a crié « Tout est accompli ». Il n'a pas dit « Tout est accompli » seulement pour le vol de bananes hein, et le vol de biscuits, de bonbons. Non, il a tout accompli pour tous les méchants. Il est venu sauver n'importe quel méchant. Donc si tu es dans la sorcellerie, n'aie pas peur. Viens au Seigneur. Il va te sauver. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tu es sauvable. Tu es sauvable. Pourquoi pas toi par rapport à la maladie? Nous lisons Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Il est écrit ceci à partir du premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous avez vu la réaction des humains quand Jésus est parti chez Zachée? Ils ont critiqué. C'est pas normal. Lui qui est un saint homme, il va chez un voleur, chez un mauvais. Tout le monde détestait Zachée. Voyez le succès que Jésus avait ce jour-là. Toute une foule l'entourait, au point que pour le voir, Zachée était obligé de monter sur un arbre, tellement il y avait du monde autour de Jésus. Mais Jésus nous montre son amour pour tout le monde sans exception. Il dit à Zachée, qui était sur l'arbre, je te connais puisque je suis Dieu. Je connais tous les humains. Bien-aimé, Dieu te connaît aussi. Quand nous disons « pourquoi pas moi ?», dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est comme si eux, ils sont des figurants. C'est les Moïse, les Jacques, les Jean qui sont les gens de Dieu. C'est complètement faux. Moïse ne mérite rien du tout. Vous vous souvenez qu'il avait tué un Égyptien, hein? Voilà. Il ne mérite rien du tout. Vous vous souvenez des exactions de David? Vous vous souvenez de l'inconstance de Pierre? Nul ne mérite d'être un proche de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi notre thème, c'est « Pourquoi pas moi ?» Tu es aussi choisi de Dieu. Dieu t'a choisi aussi. Parce que beaucoup se disent « Non, mais c'est pour les autres. » Non, c'est faux. C'est pour nous tous. Et Zachée monte. Lui aussi se dit « C'est pour les autres. Je vais voir seulement combien il est beau, ce merveilleux Jésus. Combien il est simple, combien il est glorieux. Je veux juste contempler. Mais je pense que je suis trop mauvais pour être sauvé. Et d'ailleurs, les gens me le disent. N'écoutons pas les gens. Les gens vont nous mettre dans des cases. Écoutons l'amour de Dieu. Tu n'es pas trop mauvais pour être sauvé. La preuve, Jésus a laissé toute cette foule et parti chez Zachée. Est-ce que tu saisis la dimension de cet amour? Quel pasteur aujourd'hui va laisser une foule? Moi, je me souviens quand nous étions étudiants au Maroc, nous avions invité un pasteur qui avait un certain renom à l'époque, ici en France. Première question, vous êtes au nombre de combien? Et dès qu'on nous avions dit en réponse, nous étions environ 20, il n'a plus répondu à nos lettres. Vous voyez? Mais Jésus, là on était quand même 20, hein? Mais là, Zachée était tout seul. Jésus abandonne toute une foule qui l'acclamait, qui le suivait en prince. Il abandonne tout ça pour aller s'occuper que d'une seule personne. Mais attention, pas d'une personne normale, mais une personne haïe, détestée. Du coup, Jésus porte cette mauvaise réputation aussi, puisque tu vas là-bas. Toi aussi, tu es considéré comme faux. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est celui qui se dit saint. Mais il le prend parce qu'il... Vous voyez à quel point tu es choisi. Hein? À quel point tu es choisi. Mets-toi à la place de Zachée. Tu es comme Zachée. Donc Jésus est prêt à laisser tout le monde, à se prendre une mauvaise réputation pour toi. Alors, comment tu réagis à ça? Tu dis, non, mais je laisse passer cette saison, j'attendrai une autre saison, bien aimé, attention. La prochaine saison risque de ne plus venir. Jésus passé à Jéricho, c'était fini. Zachée a dit, aujourd'hui, moi aussi, je vais faire partie des sauvés. Il a dit, Seigneur, j'ai compris. En te voyant, j'ai tout compris. J'abandonne l'amour de l'argent. J'abandonne, d'ailleurs, je réalise par ta présence que l'argent, c'est tellement rien par rapport à la gloire de Dieu que la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Et l'autre moitié, je rembourse aux gens à qui j'ai volé. Ça veut dire que le monsieur va se retrouver vide, mais attention, pas vide avec Dieu dans son cœur, dans sa maison. Jésus dit, mais Dieu maintenant est entré dans cette maison. Pourquoi pas moi? Il y a des gens qui sont accrochés à leur CDI, accrochés à leur bien. Mais quand ils observent des gens comme Zachée, ils disent, ah, lui, il avait reçu quelque chose. Non, mais ce qu'il a reçu, toi aussi, tu peux recevoir. Au point que tu vois les biens de ce monde comme rien du tout. On raye ta voiture, tu recommandes ça à Dieu. On casse ta voiture, tu recommandes à Dieu. Parce que Dieu est infiniment riche, il peut te donner ce qu'il veut, il est tout puissant. Quand tu entres dans cette dimension-là, plus rien ne te dérange, l'argent, tout ça. Tu sais que Dieu peut te donner au moment où tu en as besoin. La différence avec Dieu, c'est qu'il te donne au moment où tu en as besoin. Mais nous, ce que nous voulons amasser pour regarder, nous reposer sur ce qu'on a amassé. Mais dans Luc 12, il est question d'un riche qui avait tellement amassé et il s'est dit, c'est fini, ma vie est prise en charge. Jusqu'à la fin, je ne travaillerai plus. Mais dans la Bible, c'est écrit que le soir même, Dieu l'a ramené à lui. Il dit, mais tout ce que tu as amassé, ça sera pour qui? Mais Jésus nous dit, mais la vie, c'est plus important que tout ça, puisque tu peux avoir tout ça. Si tu n'as pas la vie que moi je donne, c'est fini. Donc pourquoi ne pas s'accrocher d'abord à celui qui donne la vie et qui peut aussi s'occuper du reste? Zachée a compris tout ça. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, tu entrerais dans cette dimension où la gloire de Dieu te submerge et tu trouves que les choses de ce monde, c'est rien. Tu peux donner, tu peux perdre, tu peux investir pour Dieu. Voilà. Et c'est tellement rien aussi que tu peux être dans une assurance que tu seras milliardaire. Parce que vous savez, l'appel de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Dieu peut te donner une assurance que tu seras milliardaire. Nous connaissons des gens, depuis tout petit, nous voyons des signes que celui-ci va devenir cela. Celui-ci, c'est l'appel de Dieu. Donc tu n'as pas besoin de forcer. Sors du forcing comme Zachée. Il a arrêté parce que qu'est-ce qu'il a amené à voler? Il voulait forcer. La richesse, c'est ce qu'il a amené à voler, à surtaxer les gens. Qu'est-ce qui va t'amener un jour à faire un coup dans ton travail? Parce que la volonté de t'enrichir. C'est écrit dans 1 Timothée 6. Ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans des pièges. Vivre l'événement, le miracle de Zachée, c'est possible aussi pour toi. Pourquoi? Il faut se dire, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je ne vivrai pas ça? Ou je deviens libre par rapport au matériel? Pourquoi pas moi? C'est possible. Pourquoi moi, je ne serai pas sauvé? Puisque Zachée a été sauvé. Il y a tant d'exemples. Il y a la prostituée de Luc 7. Elle a été sauvée par Jésus. Et pourquoi pas toi? Tu serais sauvé en tant qu'ex-prostituée. Tu peux être sauvé. Même en tant que prostituée actuelle, tu peux être sauvé toujours. Il suffit que tu croies à la même grâce qui a sauvé les gens dont nous lisons les histoires. Nous passons maintenant à ce que Dieu nous dit dans Jean 15, 5 à 8. Il nous dit ceci. Là, je parle maintenant aux gens qui hésite toujours. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu veut faire des exploits avec moi? Est-ce que Dieu veut... Des gens qui sont dans la figuration. Avec les figurants, on va te dire, bon là on fait une scène de western, toi fais seulement de boire du whisky, on met le thé à la place. C'est ça les figurants. Ce n'est pas le vrai whisky. Il y a des chrétiens qui sont dans la figuration, ils sont là. Bon, je vais chauffer la chaise à 37 degrés, puis je m'en irai. Les acteurs sont le pasteur, les chantres, c'est eux les acteurs. Nous, on vient faire semblant de boire du whisky, alors que c'est du thé. C'est ça les figurants. Et les figurants, Dieu vous parle aujourd'hui dans Jean 15, au verset 5 à 8. Jean 15, 5 à 8, c'est écrit ceci. Je suis le cep, Jésus dit, je suis le tronc, vous êtes les branches, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Tu n'es pas un figurant pour Jésus. Jésus, lui, il t'a choisi pour porter beaucoup de fruits. Nous n'avons peut-être pas le même rôle, mais tu as un rôle choisi de Dieu pour porter beaucoup de fruits. Il dit, celui qui demeure en moi. Au fait, qui fait la différence? Nous l'avons dit dès le départ, c'est lui-même Dieu. Il n'a pas dit celui à qui je donne tel don de pasteur, tel don. Non, non. Il dit celui qui est avec moi, qui demeure en moi. Il n'a pas parlé de don. Il parle de lui. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Il parle de lui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est trop grave ce qu'il dit là, et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez. Mais quand on dit demandez ce que vous voudrez, et toi tu ne demandes pas, n'est-ce pas que tu es un figurant? Tu considères que tu n'es pas acteur? Vous savez, il y a certains figurants seulement qui marchent aussi. Vous savez, Il y a des films où il y a des gens qui marchent. Ne croyez pas que c'est les gens de la rue. Hein. C'est des figurants. Parce qu'on ne peut pas faire de l'improvisation dans un film. Hein. Quand vous voyez des gens marcher dans la rue à côté de l'acteur qui est filmé, c'est quelqu'un qui est dans le film aussi, mais en tant que figurant. Mais il ne fait rien, il ne fait que marcher. C'est ce que tu choisis vraiment. Dieu a décidé que tu sois acteur. Qu'est-ce que toi tu choisis? Pourquoi pas toi? Il y a des gens qui disent, mais ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a placé comme ça. C'est faux, Dieu ne t'a pas placé comme ça. Dieu dit que lui, il veut que tu portes du fruit. C'est toi qui t'es réfugié dans un rôle de figurant. Pour toi, l'essentiel d'être dans le film, mais ça, ce n'est pas digne d'un prince. Un prince, c'est quelqu'un qui fait la guerre. Un prince, c'est un chef. Ce n'est pas un figurant. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, un enfant de roi ne peut pas être un figurant parce que c'est leur maison, c'est leur œuvre, c'est l'œuvre de ton papa. Ce n'est pas l'œuvre de mon père seulement. Il est notre père à nous tous. Pourquoi alors nous ne jouons pas la figuration quand il s'agit de prendre l'héritage familial? Oh, non, c'est pas grave, moi je me contente, c'est mon père, je l'ai beaucoup aimé. Gardez. Qui va à ce moment-là jouer le figurant? Personne, c'est mon papa, on peut faire des tests génétiques. Oh. Maintenant, quand il s'agit du Père du ciel, amen. Le pasteur, il est choisi. Un tel, il est choisi. Oh, mon frère, tu es choisi aussi. Arrête de fuir. Nous allons clôturer avec ça. Au fait, nous avons commencé par pourquoi pas moi. Maintenant, ça va finir par pourquoi moi. Parce qu'en réalité, tu sais au fond de toi que tu es choisi, mais tu as peur. Tu ne veux pas les embêtements, tu ne veux pas les dérangements. Non. Pourquoi moi? Le pourquoi moi est au fond de toi. C'est ça la réalité. Tu ne veux pas. Les histoires de prêcher là, tout ça. Après, ça va être des problèmes, on va me critiquer. Non. Il y a des gens qui disent, non, moi je veux bien de Jésus, mais je ne veux pas vivre votre vie là tous les jours à l'église, là je ne veux pas. En réalité, tu as peur de beaucoup de choses. Tu t'es imaginé beaucoup de choses. C'est pourquoi tu fuis ton appel. Tu sais au fond de toi. Mais tu dis, mais non, pourquoi il me met dans cette place-là, à cette place-là? C'est ce que Gédéon dit, hein? Mais oui, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Si tu veux libérer Israël, choisis des costauds. Moi, je suis le plus petit de ma famille. Pourquoi tu me choisis, moi? Et ma famille est la plus petite des familles du pays. Pourquoi moi? En réalité, ça finit. Le pourquoi pas moi, ça finit par pourquoi moi. En réalité, il y a la peur dans ton cœur. Tu n'acceptes pas qu'un type comme toi, une femme comme toi, soit choisie de Dieu. Tu n'acceptes pas ça. Tu t'estimes zéro. Et c'est faux. Il n'y a pas de... Comme dit notre... évangéliste Renard Bonke, il disait, mais plus tu es zéro, si tu as plusieurs zéros, Dieu va mettre son 1 devant. Si tu as 10 zéros, lui met le 1 devant, ça devient 10 milliards. Plus tu es zéro, le 1 va avoir de la valeur. Si tu es un petit zéro, ça va faire 10. Mais plus tu es zéro, 15 zéros, ah ben là, ça fait encore extraordinaire. Donc plus tu es zéro, tu n'as pas de justification, parce qu'un seul 1 de Dieu, ça t'envoie dans les trillions, dans les millions. Et justement, Dieu cherche des zéros pour montrer sa gloire. Tu ne peux pas fuir. Aujourd'hui, Dieu te parle. Sors de la figuration. Et c'est écrit au verset maintenant 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Quelle est la condition d'être disciple? C'est porter du fruit. C'est écrit. Hein? Comment tu glorifies Dieu en portant du fruit? Nous n'avons pas dit en produisant. Ce n'est pas toi qui vas produire. Mais porter, c'est Dieu qui va produire. Ce n'est pas la branche qui produit les fruits. Hein? La branche porte les fruits. Mais c'est la sève. Il y a un mécanisme dans l'arbre qui produit la fleur plus le fruit. La branche ne fait que porter. Donc si tu ne portes pas beaucoup de fruits, c'est parce que tu fuis l'appel. Nous le disons que l'Église est en retard, c'est parce que le nombre d'enfants de Dieu qui n'entrent pas dans leur appel est très grand, trop grand par rapport à ceux qui entrent dans l'appel de Dieu. C'est à cause de ça que l'Église est en retard. Prenez les histoires des anciennes églises des années 1800, 1900 aux États-Unis quand il y a eu le réveil. Vous allez voir, regardez la vie des chrétiens, vous allez voir que chacun portait beaucoup de fruits. Il y avait des gens qui disaient que pendant 6 mois, je vais consacrer ça à bâtir le bâtiment, le centre qui va recevoir les malades, qui va recevoir Voilà, il y a des... Donc chacun était actif à son niveau, de sorte qu'il y avait un réveil qui touchait tout le pays. Mais quand il n'y a que peu de personnes qui répondent à l'appel, ils deviennent des stars, ils deviennent des gens spéciaux et les autres deviennent des spectateurs. Et face à l'armée ennemie, nous n'avons pas de force puisque nous sommes très peu nombreux, bien-aimés. Très peu nombreux. Même si Jésus dit « Petit troupeau, votre Dieu vous a donné le royaume », il ne parle pas par rapport à ce que j'ai dit. Il parle par rapport au fait que si nous tous nous engagions, nous serions quand même petits par rapport au monde. Mais il nous donne quand même le royaume. Mais quand ceux qui doivent s'engager ne s'engagent pas, ne vous en faites pas. L'ensemble ne sera pas aussi fort. L'ensemble est fort si tout le monde saisit qu'il est choisi de Dieu. Il est appelé et qu'il s'implique. C'est comme ça que l'ensemble avance. J'ai déjà eu un flash où j'étais dans des ténèbres, et j'appelle ça des ténèbres épaisses. C'est-à-dire des ténèbres qui ont un certain poids. Tu es dans les ténèbres, mais c'est comme si ça pesait sur toi. Et utiliser tous les enfants de Dieu, chacun à son niveau. Nous n'avons pas dit que nous puissions imiter l'autre. Non, nous voulons juste que dire à Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jouer à la figuration. À partir d'aujourd'hui, je veux faire partie des combattants de ton armée. À partir d'aujourd'hui, je veux... J'ai compris que si je suis ton enfant, c'est logique. Si je suis ton fils, oh Dieu, c'est logique que je m'occupe des affaires de mon père. Hein, vous souvenez de cette phrase-là? Jésus, à l'âge de 12 ans, les parents lui disent, mais Jésus, tu nous as fait peur pendant 3 ans, 3 jours, nous t'avons cherché. Qu'est-ce que tu nous as fait comme peur? Jésus dit, mais pourquoi m'aviez-vous cherché? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais toi, tu considères que mais c'est les activités des autres. C'est l'œuvre, c'est les autres qui sont appelés. Et tu ne participes qu'au peu où tu es quelqu'un. Mais s'il faut soutenir les autres, c'est pas pour toi, c'est pas pour la famille. Non, bien-aimé, l'œuvre de Dieu, c'est notre famille. C'est notre œuvre, c'est l'œuvre de notre papa. Moi, où que je vais, l'église où je vais prier, je considère que c'est mon église. Partout où je pars, je considère que les chrétiens sont mes frères. Je considère que tous les pays du monde sont mes pays. Et je me moque de ceux-là, les chauvins, les nationalistes, les vantards. Par exemple, en Suisse, ils croient que la Suisse, c'est le paradis. Je dis, ce n'est pas le paradis et ce n'est pas non plus votre pays, c'est le pays de nous tous. Voilà. C'est le pays de mon père qui a créé toute chose. En Suisse, même s'ils sont orgueilleux, je me sens comme chez moi. Voilà, c'est comme ça. Personne ne peut changer cela parce que je suis conscient que c'est mon père qui a tout créé. Je ne vais laisser aucun espace terrestre à quelqu'un d'autre. Tout est pour nous. Les gens peuvent dire, mais il va à gauche, à droite. Oui, mais je vais à gauche, à droite parce que je considère qu'à gauche, à droite, c'est pour moi. Je ne vais pas laisser ça à quelqu'un d'autre. C'est pour mon Père. Il nous a chargés d'agir pour que le monde le voie et le monde soit sauvé. Dieu nous a tous appelés à porter du fruit. Nous finissons avec quelques actes extraordinaires dans Actes 5, 12 à 16. Actes 5, 12 à 16. Il est écrit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisait au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. On voit encore le groupe. Ils se tenaient tous ensemble, le groupe travaillait. Ce n'était pas quelques stars, c'était le groupe. Le groupe, tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Mais tous étaient guéris, pas par Pierre, par le travail du groupe. Pierre, lui, il avait le don spécial de ressusciter les morts, de guérir les maladies les plus graves, mais ce n'est pas Pierre qui travaillait là seul. C'est son ombre qui travaillait. Est-ce que Pierre était... Est-ce que tu peux contrôler ton ombre? Dire mon ombre touche là-bas. Non. Donc c'est qui agissait? C'est Dieu à travers Pierre. Mais qui a organisé que de mettre les gens sous l'ombre de Pierre? Pierre lui-même encore? Non. C'est les bien-aimés qui se sont dit, nous voyons ce que Dieu fait à travers Pierre. Nous pensons que là, nous sommes débordés. Il y a trop de monde. Organisons-nous d'une manière efficace, que l'ombre de Pierre touche les gens. Et les gens seront guéris. Mais c'est les bien-aimés qui ont eu l'idée, ce n'est pas Pierre. C'est le groupe qui a eu l'idée. Donc chacun fait son travail dans l'affaire. Ne soyons pas là être jaloux. Mais pourquoi Pierre? Mais non, profite de ce que Dieu a mis en Pierre. C'est tout. Il y en a qui sont là, oh, pourquoi seulement lui? Mais c'est ton frère, où est le mal? Surtout en France. Les gens n'aiment pas voir que quelqu'un d'autre fait des choses. Mais non. Aux États-Unis, quand quelqu'un voit que son voisin est devenu riche, il va tout de suite lui proposer de promener son chien et de recevoir un salaire. Mais en France, on va dire, oh, comment il est devenu riche? Ce n'est pas ton problème. Va demander à promener son chien et tu vas gagner de l'argent. Changeons de mentalité. Tu vois quelqu'un qui est utilisé par Dieu, aide-le. Comme ça, vous montez ensemble. Là, la gloire de Dieu s'est manifestée. Il a dit, mon Père est glorifié. Est-ce que vous vous rendez compte des gens accouraient de tous les villages? Vous imaginez le nombre. Les bien-aimés ont dit, écoutez, Dieu utilise Pierre. Mais Pierre ne peut pas toucher tout le monde physiquement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à promener les gens. On va toucher l'ombre de Pierre. Et quand ça touchait l'ombre de Pierre, quelqu'un guérissait. Il prenait quelqu'un d'autre. Ils suivaient partout Pierre allait. Pierre faisait sa part, mais eux aussi faisaient leur part. Ils étaient conscients que ce n'était pas Pierre, c'est Dieu qui faisait. Alors, nous allons nous adapter. Amen. Tout le monde travaillait. Aujourd'hui, je prêche avec quoi? Avec un micro. Si les bien-aimés n'avaient pas travaillé pour qu'il y ait le son, il n'y aurait pas de son, bien-aimés, ne vous en faites pas. Hein. La salle est propre parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Toutes ces personnes-là ne sont en rien inférieures à la personne qui prêche. Nous avons le même niveau devant Dieu. Hein. Nous travaillons la même œuvre. Mais chacun peut être à son poste. Il n'y a pas de poste meilleur. Parce qu'en réalité, vous ne connaissez pas les cœurs des gens. Si vous connaissiez mon cœur, vous saurez en réalité ce que moi j'aime vraiment. Moi j'aime être vigile, être garde du corps. Voilà. Si vous cherchez qu'est-ce que moi j'aime vraiment, c'est ça. Protéger quelqu'un d'autre, c'est tout. Être garde du corps. Mais nous avons accepté l'appel de Dieu tel que ça nous est tombé dessus. Parce que c'est le papa, il a décidé ainsi, nous prêchons. Mais ce n'est pas ce que moi j'aime fondamentalement. Ce que j'aime fondamentalement, c'est la musique et être vigile. C'est les deux choses. Bien sûr, dans le monde, ce que j'aime fondamentalement, c'était les mathématiques. Mais voilà. Mais nous avons accepté l'appel de Dieu parce que c'est Dieu. Parce qu'il a donné son fils Jésus pour nous. Alors bien-aimés, arrêtons d'être égoïstes, de regarder qu'à sa vie personnelle. À un moment donné, il faut se mouiller pour ce Dieu qui s'est mouillé pour nous. Nous lisons dans Actes 19, 8 à 12. Actes 19, 8 à 12. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Est-ce que c'est Paul qui a décidé ça? Non. Paul n'était même plus à l'endroit. Il n'était plus là. Mais les bien-aimés se sont dit, Dieu utilise Paul. Alors, comme il avait touché certains vêtements et que lui n'est pas là, nous allons prendre ses vêtements. Mais aujourd'hui, il y en a qui en ont fait un système. Il a son mouchoir blanc, il lance sur les autres. Mais non, ce n'est pas Paul qui avait décidé ça. C'est les autres inspirés par Dieu et voulant travailler, chacun à son niveau. Tu veux travailler, mais tu es conscient que un tel appel, c'est Dieu qui l'a donné à un tel. Je ne peux pas faire ce qu'il fait, mais je peux utiliser ce qu'il fait pour le royaume de Dieu. Amen. Tu n'es pas. Parce que certains veulent tout faire. Tout le monde a un don. Tu ne peux pas vouloir à tout prix faire ta marque à toi. Si Dieu a utilisé quelqu'un pour beaucoup prêcher, tu prends sa prédication, tu lis et tu vas prêcher ça aux gens, tu sauves les gens avec. Tu n'es pas obligé, toi, de faire seulement toi. Non. Ils ont pris les vêtements. J'entends les gens d'aujourd'hui dire, « Ah mais non, mais Dieu utilise n'importe qui. Hein. Moi aussi, je peux faire. » Oui, mais il y a dimension et dimension dans l'usage de Dieu. Il faut être humble pour reconnaître la dimension. Et eux, ils ont reconnu que, vous savez que quand Dorcas était mort, vous croyez qu'eux, ils n'avaient pas prié pour sa résurrection, même pour quand elle était malade, ils avaient prié, mais ils n'étaient pas ressuscités. Hein. Ils sont partis chercher Pierre dans une autre ville. Pierre, lui, quand il vient, il prie, elle est ressuscitée. Mais ils n'ont pas eu l'orgueil de ne pas aller chercher Pierre. Ils se sont dit, oh, mais il y a la porte qui est là-bas, on va aller le chercher. Ils se sont dit, mais Dieu utilise Paul, mais puisqu'il n'est pas là, il a touché quelques vêtements. On va prendre les vêtements, on met sur les gens. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est vouloir faire quelque chose. Ces gens-là voulaient faire quelque chose pour que la gloire de Dieu se manifeste. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, pourquoi pas nous? Pourquoi pas l'Église d'aujourd'hui vivrait ce que nous sommes en train de lire? Maintenant, c'est ce qu'on vit, c'est qu'on souffle sur quelqu'un, il tombe, il tremble, il tombe, on dit que c'est un miracle. Pourquoi c'est un miracle? Nous, on a vu ça chez les féticheurs aussi. En quoi c'est un miracle? Le miracle, c'est que les morts ressuscitent, les aveugles voient, les paralytiques marchent, le sida soit consumé, le cancer consumé, c'est ça le miracle. Donc tu ne veux pas faire les examens, il n'y a plus rien. C'est ce miracle, c'est ça, c'est le miracle. Ce n'est pas les histoires, tu souffles sur quelqu'un, il commence à s'agiter. Ça, c'est la danse. Ce n'est pas un miracle. Nous voulons, pourquoi pas nous? Il faut décider ce que nous voulons. Moi, je dis, nous voulons vivre les mêmes choses. Puisque Paul n'était pas meilleur que nous, ni Pierre. C'était des gens qui ont répondu à l'appel de Dieu. Alors répondons tous à l'appel de Dieu. Répondons au choix de Dieu. Arrêtons avec la peur. Arrêtons avec la fuite. Ah non, ce n'est pas de mon niveau. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour nous. Et on joue la figuration. Non, Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi. Prends courage. Voilà, nous allons prier. et répondre à l'appel de Dieu. Nous allons chanter le chant « Pourquoi moi ?» Voilà, que Dieu nous aide à répondre à son appel. Nous commençons par prier afin de dire à Dieu « j'accepte de te suivre, j'accepte de jouer un rôle, prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier, je viens prier pour dire « pourquoi pas moi ?» Moi aussi, je veux vivre ce que tu as fait avec Pierre, avec Paul. Je veux vivre ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres. Je veux vivre ce qui s'est passé au réveil du pays de Galles, à Azusa Street. Nous voulons vivre ce que tu as fait avec notre frère Renard. Nous voulons vivre, Seigneur, ce que tu as fait avec John Patton, avec Adoniram Judson, Seigneur, avec tes serviteurs d'autrefois. Nous voulons vivre cela. Nous te disons oui, Seigneur. Enlève de nous la peur. Enlève de nous les jugements sur nous-mêmes. C'est pourquoi il y a un verset qui dit, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous estimons pas à la hauteur. Nous nous estimons trop mauvais, trop petits, trop inutiles. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te suivre. Et que ceux qui sont se considérés trop sales, qui ne se considéraient pas prêts pour le baptême, comprennent que tu leur donnes accès aujourd'hui à passer de l'autre bord. Aujourd'hui, comme Zachée l'a fait en un instant, qu'ils acceptent, que la peur les quitte, en se posant la question, pourquoi moi ? Alléluia. Oui, Seigneur, maintenant que nous t'avons choisi, aide-nous à demeurer dans ce choix, à ne pas faire marche arrière. Aide-nous à nous reposer sur toi, et non pas sur notre intelligence, ni sur nos efforts. À garder la confiance en toi jusqu'au bout, comme le frère Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour les cas difficiles. Voilà, s'il y a un cas difficile de maladie ou un autre problème quelconque, voilà, tu te lèves à ta place, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi je serai guéri? Voilà, nous allons présenter le problème à Dieu. Seigneur, nous venons prier pour tous les bien-aimés qui se sont levés, qui recherchent la guérison, qui recherchent la délivrance par rapport à un souci, par rapport à un problème, par rapport à un esprit. Seigneur, aujourd'hui, que ta main de puissance se pose sur chacun et que les chaînes du monde des ténèbres soient brisées. Serpent, tu es vaincu, tu quittes au nom de Jésus-Christ. Tu sors au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. La maladie s'en va dans les lieux arides. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison, la libération totale. Et tout obstacle venant du monde des ténèbres dans la vie de tous ceux qui réclament à toi la guérison, la libération, tout obstacle est brisé au nom de Jésus-Christ. Que le fleuve d'eau vive coule. Manifeste-toi, le fleuve d'eau vive du Saint-Esprit. Change les temps et les circonstances dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur d'agir dans ta gloire, dans ta puissance. Tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, la louange, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli et que tu vas faire encore dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur, que la gloire te soit rendue pour tout ce que tu fais dans le cœur, dans la vie. La foi et l'espérance ont chassé la peur. Et en toi, alléluia, mon Dieu, mon roi, Alléluia, toutes ces choses, alléluia, qui ont été citées aujourd'hui. Alléluia, par la grâce de Dieu, par ton esprit. Alléluia, comme tu l'as dit, alléluia, Dieu ne fait acception de personne. Alléluia, nous ne devons pas nous juger nous-mêmes, mais venir à toi tel que nous sommes. Alléluia, pour alléluia, accepter ces choses. Venir avec foi. Et tu es disponible encore pour nous toucher. Alléluia, pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous délivrer. Alléluia, pour nous faire rentrer dans ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Nous profitons aussi pour prier encore, Seigneur, pour tous ceux aussi, alléluia, Père, qui se sont eux-mêmes dit qu'ils ne peuvent pas, alléluia, Père, ou bien qui se sont eux-mêmes bloqués, Seigneur. Fais-les grâce. Alléluia, comme il a été dit, Seigneur. Alléluia, pourquoi pas nous? Dieu ne fait acception de personne. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Que personne ne doit se rejeter lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Le culte vient de commencer maintenant. On continue ou pas? Vous voulez? Bon. On lui gloire à Dieu. La paix, la vie, l'amour de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Beaucoup, alléluia, on peut le savoir. Souvent, on a les témoignages autour de nous qui sont maîtris,